Vous êtes sur Choc FM 105.1 avec Kitry Hervouet. Je suis en studio avec Monsieur Paul Savoie pour son livre L'autre bout du monde, tome 3. Monsieur Savoie, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez vous présenter pour les auditeurs qui vous êtes ?
Alors, c'est Paul Savoie. Je suis un auteur d'origine franco-manitobaine. J'habite en Ontario depuis le début des années 70. Mon premier livre a paru en 1974, donc je publie depuis très très longtemps. Je fais un peu de tout, poésie, roman, nouvelle, traduction littéraire, récit de voyage.
Et est-ce que vous pourriez me présenter votre récit, L'autre bout du monde? C'est un récit de voyage.
Oui, c'est le troisième volet d'une trilogie qui s'intitule L'autre bout du monde. Et c'est dans le cadre de plusieurs voyages que je fais en Asie. J'ai découvert l'Asie vers la fin du 20e siècle. Et puis, je fais une douzaine de voyages depuis. Celui-ci, c'est un voyage qui a eu lieu aux Philippines. Alors, je suis allé là pour visiter la famille de mon épouse. Et puis, on a seulement passé 10 jours cette fois, mais il s'est passé tellement de choses pendant ces 10 journées-là qu'en revenant, j'ai dit « Oh, c'est tellement intéressant tout ce qui s'est passé. » Alors, j'ai tenté d'écrire un livre au sujet de ça.
Mais donc, c'est un récit de voyage. Et moi, je suis toujours curieuse parce que c'est vrai que moi, quand j'étais jeune, ma mère aussi me demandait de faire des récits, de raconter dans un journal de bord. Est-ce que c'est écrit un peu comme un journal de bord?
Pas vraiment, parce que j'avais aucunement l'intention d'en parler. C'est juste en revenant. Alors, donc, pendant que j'étais là, j'ai pas tenu compte de ce qui se passait comme tel.
Vous n'avez pas pris de notes?
Non, absolument pas.
Donc, ce sont en fait des souvenirs.
L'avantage, c'est que l'idée d'en faire un livre, parce que j'avais déjà les deux premiers tomes qui étaient là, puis je m'étais engagé à faire un troisième tome, mais j'avais pas pensé que celui-ci, ce serait le sujet du troisième tome. Mais en revenant, j'ai dit... Aussitôt, j'ai dit « Non, il me semble que c'est ça mon troisième tome. » Et puis, j'ai communiqué avec mon éditeur, puis j'ai présenté l'idée, puis il a dit « Oui, oui, mais on m'a donné un mois pour le faire. »
Un mois?
Parce qu'il y avait, une ouverture là, dans leur calendrier de publication. Puis j'ai dit « Bien, là, c'est assez frais. Donc, si on m'avait offert ça un an plus tard, ça aurait été difficile pour moi, là, parce qu'il aurait fallu que je me creuse les méninges et puis tout ça. Mais c'était très, très frais. Alors, mon défi pour moi, c'est de mettre ça dans un ordre. » Et puis, que ça se tienne, que ce soit, j'espère, intéressant aussi.
Mais est-ce que c'est romancé, votre récit de voyage, ou est-ce que c'est vraiment ce qui vous est arrivé avec votre épouse et la famille de votre épouse?
Oui, c'est absolument ce qui est arrivé. J'invente rien là-dedans. Et puis, le défi pour moi, c'est de pas mettre mon épouse ni les membres de sa famille dans une situation embarrassante. Mais il y a rien d'embarrassant vraiment qui se passe. C'est très sympathique. Je crois que c'est très sympathique. C'est une famille extraordinaire. Et puis, mais c'est une famille. Il se passe tellement de choses dans cette famille-là. Et dans les Philippines, il se passe toujours beaucoup de choses. Parce que c'est un pays avec très désordonné et des grosses familles, et beaucoup beaucoup de mouvements. C'est assez extraordinaire.
Et est-ce que vous aimeriez écrire peut-être un tome 4 sur un autre voyage? Vous avez fait peut-être un autre voyage depuis?
Mais non, ça c'est mon dernier. Là, j'ai fait le voyage il y a seulement quelques mois. Donc, moi, il y a encore d'autres pays que j'aimerais visiter. J'aimerais approfondir. Je connais un petit peu la Corée du Sud et un petit peu le Japon, mais j'aimerais passer un mois en Corée au moins, puis un mois au Japon. Mais je ne sais pas quand ça va pouvoir se faire. Mais encore là, je peux pas. Faudrait voir à ce moment-là si mon éditeur serait prêt à en faire un quatrième tome. Mais on va voir. J'ai aucun plan dans ce sens-là.
Et est-ce que ça, moi je suis curieuse, est-ce que vous aimeriez faire par exemple un journal de bord, quelque chose d'un peu différent? Parce que là, le récit c'est sur des souvenirs, mais donc le journal de bord c'est plus quelque chose que vous racontez en même temps que vous le vivez?
Non, pas vraiment, parce que moi le voyage c'est pas, par exemple, moi c'est pas nécessairement le but pour moi de faire découvrir un pays avec aujourd'hui je suis allé visiter ça, aujourd'hui c'est passé ça. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le vécu qui existe. Et puis, souvent, par exemple, dans le deuxième tome, tout s'est passé, même si j'avais fait plusieurs autres voyages depuis le premier tome, j'ai seulement concentré sur un bout d'un voyage en Thaïlande. Parce que ce que j'essayais d'aller chercher, c'est ce qui s'est passé à la fois à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Qu'est-ce que représentent ces mouvements, ces choses qui arrivent, ces expériences, ces aventures? Tout ça, tout ce qui nous désempare, tout ce qui nous fascine, tout ça. Et souvent, je ralentis le récit pour concentrer beaucoup plus sur les états intérieurs. Puis, donc, c'est pas un récit de voyage typique, dans le sens qu'on va vraiment concentrer sur les lieux, sur les différents... Et ça se passe quand même, mais c'est pas ça l'essentiel du récit.
Vous écrivez des romans, vous écrivez des nouvelles, vous avez également reçu des prix pour des recueils de poèmes, vous écrivez également des récits de voyage. Quelle forme d'écriture vous préférez, qu'est-ce que vous préférez écrire?
Ce qui me convient le plus, c'est la poésie. Je pense que c'est le plus naturel. Ça me vient tout de suite, la poésie. Ça a toujours été là, en moi. J'ai fait la transition d'abord vers la nouvelle. Ça a été long parce que c'était pas évident pour moi. J'en revenais toujours à une espèce de style poétique, lyrique. C'est ça qui est plus naturel.
Vous écrivez des poèmes en prose ou en vers, hein, plutôt?
Les deux. J'ai une nouvelle idée de texte, puis de récit de poétique. Ça va être en prose, celui-là, je crois. Prose poétique, par exemple. La forme la plus difficile pour moi, c'est le roman. Parce que c'est juste à cause de mon style naturel, faut que je me concentre, faut que je me discipline pour établir ça de façon différente, établir la narration, l'aspect narratif un peu de façon différente. Et puis faut que je travaille beaucoup plus fort. Alors la nouvelle ça va parce que c'est très concentré. Et puis la poésie aussi c'est encore plus concentré. Alors moi j'aime les formes concentrées comme ça là où je me lance complètement dans quelque chose pendant 2-3 jours, 2-3 heures, puis je m'essouffle, je me tue presque, mais là c'est fini, là je reprends mon souffle. Tandis qu'un roman, il faut aller beaucoup plus graduellement et puis rester dans la chose. Moi, je pense qu'une sorte d'impatience que j'ai, je vais arriver très très vite au résultat.
Au résultat, c'est-à-dire qu'un roman, vous allez mettre combien de temps pour l'écrire? Par exemple, un recueil de poèmes, celui-là, vous avez mis à l'autre bout du monde, vous avez mis un mois, oui. Donc c'est quand même très court.
Oui, c'est très court.
Un recueil de poèmes, vous allez mettre combien de temps pour l'écrire?
Ça dépend, parce que moi, un recueil de poèmes, ça dépend si c'est un coup de foudre, par exemple. Un de mes recueils qui s'appelle Bois brûlé, c'est venu un coup de foudre parce qu'il y a eu une sorte d'inspiration, et puis c'était très, 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 très concentré sur cette chose-là. Et pendant peut-être 3-4 mois, là, parce que tous les jours, les choses qui me revenaient, là, sans arrêt. Tandis qu'un autre recueil, Amour flou, ça m'a peut-être pris 1 an et demi, parce que c'était... Pas tous les jours, par exemple, parce que c'était un plan... Il y avait une grande, grande portée, puis il fallait que je fasse toutes sortes de recherches. Et puis, ça varie de recueil en recueil.
Est-ce que vous vivez de votre écriture? Parce que on disait hors antenne que vous donnez des cours, vous êtes aussi directeur du Salon du Livre de Toronto. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre plume? Parce que vous avez écrit votre premier roman en 1974.
Oui. Non, absolument. Moi, je pense qu'il y a à peu près personne, sauf peut-être des gens comme Michel Tremblay ou... quelques autres comme ça, la berge, des choses comme ça.
J'en ai interviewé actuellement une, Catherine Girard-Audet, elle écrit des livres pour enfants et elle a écrit une série de livres qui s'est vendue à 800 000 exemplaires.
Donc, la chanceuse.
Voilà, c'est effectivement quand je lui avais posé la question, elle m'avait dit que oui, elle faisait vraiment que ça. Mais effectivement, dans les auteurs que j'ai interviewés, il n'y a vraiment que elle.
Oui, c'est très rare parce que. Mais indirectement, oui, tout est autour de l'écriture parce que même ce que j'enseigne à l'université maintenant, j'ai eu des diplômes et tout ça, là, mais c'est pas ça qui fait que j'ai ce poste-là, c'est parce que je suis écrivain. Puis aussi les bourses, toutes sortes de choses. Je fais des ateliers de création dans les écoles secondaires présentement aussi, puis ça, c'est parce que je suis écrivain. Le Salon du Livre de Toronto, je l'aurais pas eu si j'avais pas été écrivain. Alors, c'est indirectement...
Tout tourne autour du fait que vous êtes écrivain, donc vous arrivez à obtenir des postes d'enseignant, oui. de directeur du Salon du Livre et autres.
Oui. Alors, donc, dans un sens, je vis de ma plume, mais pas à travers les ventes. Les ventes, c'est assez minime, là, ce que je reçois. Il y a des droits d'auteur, des choses comme ça, là, mais je pourrais jamais vivre de ça. Là.
Quelles sont vos influences? Parce que vous écrivez des nouvelles, des poèmes, un peu de romans également. Où puisez-vous vos influences pour
Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs parce que j'écris aussi. J'ai déjà écrit des livres en anglais parce que moi, je suis complètement bilingue dans ce sens-là. Au niveau de ma formation, j'ai grandi dans un milieu où les deux langues étaient omniprésentes.
Mais vos parents sont francophones?
Sont francophones, mais on vit dans un milieu à Winnipeg, Saint-Boniface, un milieu anglophone. Puis il y a beaucoup de ma parenté. Mes parents, à nous, dans ma famille, on nous inculquait le désir de parler le français, mais dans toute ma famille, il n'y a presque personne, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, ont tous été assimilés presque. C'est comme, il n'y a presque plus de français qui se parle. Moi, je parle encore le français avec mes frères.
Par exemple, avec votre femme, vous parlez français?
Non, elle ne parle pas français, puis moi, je ne parle pas sa langue non plus. Mon épouse est une philippine, et puis j'ai essayé d'apprendre sa langue, mais je ne suis pas capable. Puis moi, je n'insiste pas donc pour qu'elle apprenne le français. On a une langue de communication, c'est l'anglais. Donc, mes grandes influences en français, ça a été Baudelaire. C'est seul mon amour de la poésie.
Oui.
En anglais, ça a été... Il y en a eu deux, vraiment. Là, ça a été Virginia Woolf. Quand j'ai lu son roman « To the Lighthouse », j'ai été tellement, tellement bouleversé par ce livre. Et puis, toute son œuvre par la suite, là, que c'est une façon d'écrire à travers les images. Puis aussi, un romancier américain, Faulkner, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup influencé aussi. C'est un style d'écriture, là, complètement délirant, là, que j'adore. Alors, ce sont des influences comme ça, je dirais. Mais pas directement, c'est juste... Je pense que ce sont des tendances, des mouvements, une façon d'aborder la langue et puis la vie aussi. Puis c'est là-dedans que je me situe un peu. Là.
Moi, j'adore Baudelaire et je me disais, quel est votre poème préféré de Baudelaire? Vous en avez un en particulier?
J'ai pu l'enseigner encore cette année, au premier trimestre. J'avais un cours où je pouvais parler de Baudelaire et puis...
Vous avez enseigné.
J'aime le plus.
C'était Les Fleurs du Mal.
Oui, c'est des poèmes tirés. Mais il y en a tellement, comme peut-être La Vie antérieure, je sais pas. Mais aussi L'invitation au voyage, c'est tellement lyrique, ça, c'est simple, mais c'est tellement tellement beau. Mais il y en a plusieurs, mais c'est peut-être ces deux-là qui. Mais aussi, je suis influencé aussi parce que Ferré en a fait des chansons. Et puis c'est drôle parce que. Quand je lis ses poèmes, j'entends Ferry qui les chante, alors c'est très étrange là, comment ça s'est fait, ça, mais ce sont des poèmes que je trouve absolument magnifiques, qui me touchent encore. Mais dernièrement, par contre, aussi, j'ai aussi enseigné la poésie de Céline Garneau, du Québec. Puis, il y a encore là, chez lui, parmi tous les poètes canadiens, c'est lui que j'aime le plus. Et puis, il y a quelque chose dans sa poésie à lui qui vient me chercher, puis une simplicité, mais une profondeur qui m'épate, là, qui me bouleverse aussi.
Monsieur Savoie, merci beaucoup pour cette entrevue et merci d'être venu dans les studios de Choc FM. Votre livre, un récit de voyage qui s'appelle L'autre bout du monde, tome 3, est paru aux éditions L'Interligne. Merci beaucoup, monsieur Savoie.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Vous étiez bien sur Choc FM 105.1 avec Kit Réhervouet. Restez à l'écoute de Choc FM.